Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 27 Mordad 1401 du calendrier iranien, 18 août 2022. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Selon Moscou, le résultat final des pourparlers de Vienne dépend de la réaction américaine aux propositions de l'Iran. Israël est un régime d'apartheid, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Téhéran a condamné l'explosion dans une mosquée de Kaboul, capitale afghane, et les forces israéliennes ont tué un autre jeune palestinien lors d'une incursion près de Naplouse. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué les gouvernements occidentaux pour avoir nié les réalités qui prouvent qu'Israël est un régime d'apartheid. Nasser Kanani a déclaré que des documents internationaux officiels et des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme prouvent qu'Israël est un régime d'apartheid. Il a ajouté qu'Israël avait commis un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Kanani a exhorté les États occidentaux à défendre les droits de l'homme des Palestiniens au lieu de nier les réalités existantes sur les crimes d'Israël. Ces remarques sont intervenues après que l'Allemagne et Israël ont critiqué les remarques du président palestinien Mahmoud Abbas sur les crimes du régime d'occupation contre les Palestiniens. Lors d'une récente visite en Allemagne, Mahmoud Abbas a accusé Israël d'avoir commis un holocauste contre le peuple palestinien. Berlin a qualifié les remarques d'Abbas de scandaleuses et le premier ministre israélien les décrit comme un mensonge monstrueux. L'Iran condamne l'attentat à la bombe de mercredi contre une mosquée à Kaboul, la capitale d'Afghanistan. Le ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué, a exprimé sa sympathie aux familles des victimes. Une violente explosion s'est produite mercredi dans une mosquée de la capitale afghane Kaboul, a indiqué la police locale. Le porte-parole du département de la police de Kaboul a indiqué que l'explosion s'est produite à la mosquée Abu Bakr al-Siddiq pendant la prière du soir. L'explosion aurait fait des morts et des blessés, mais la police des talibans n'a pas fait de déclaration officielle sur le nombre des victimes. L'un des plus grands centres de soins de Kaboul a annoncé sur Twitter que 27 patients, dont 5 enfants, y avaient été admis, tandis que la chaîne Al Jazeera a affirmé qu'une vingtaine de personnes auraient perdu la vie. Aucune revendication n'a encore été faite quant à la responsabilité de l'attaque. Zabihullah Mujahed, porte-parole du gouvernement des talibans, a condamné l'explosion, mais n'a pas fourni d'informations sur les victimes. Mujahed a déclaré que les auteurs de l'attentat seraient identifiés dans les plus brefs délais. Les forces israéliennes ont tué un autre jeune Palestinien. Cela s'est produit lors d'une attaque des forces du régime sioniste à la périphérie de la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Wassim Nasr Abu Khalifa, 18 ans, a succombé aux blessures qu'il a subies après avoir été touché par des tirs israéliens au tombeau du prophète Joseph, à l'est de Naplouse. Cela s'est produit après que des combattants de la résistance palestinienne ont échangé des tirs avec les forces israéliennes lors d'une incursion sur le lieu saint. Au moins 70 Palestiniens ont été blessés dans les affrontements qui ont suivi. Les tensions sont montées dans les territoires occupés après que le régime israélien a perpétré un nouveau massacre dans la bande de Gaza le 5 août, tuant près de 50 Palestiniens, dont Taysir al-Jabari, un haut commandant du mouvement de résistance du djihad islamique de la Palestine. Les tensions sino-américaines se poursuivent. Un haut responsable américain a déclaré que Washington naviguerait partout où le droit international l'autorise, réaffirmant les transits par le détroit de Taïwan. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a prévenu mardi son homologue chinois que l'armée américaine poursuivrait ses déplacements en mer de Chine méridionale partout où l'y autorise le droit international, quelques jours après le passage d'un destroyer américain près d'îlots dont Pékin revendique la souveraineté. Carter a réaffirmé que les États-Unis continueraient à voler, naviguer ou opérer partout où le droit international le permet. Et il a clairement fait savoir que la mer de Chine méridionale ne faisait pas exception à cela, a déclaré ce responsable après des entretiens à Kuala Lumpur. De son côté, le ministre chinois de la Défense a réaffirmé la position de Pékin pour qui les îlots disputés sont sous souveraineté chinoise et a exprimé à nouveau le mécontentement chinois face à l'envoi du destroyer américain dans la zone. L'appel lancé par Washington, exhortant Pékin à arrêter la militarisation de la mer de Chine méridionale tout en envoyant un navire de guerre dans la zone, était une tentative de priver la Chine de son droit à la légitime défense en tant qu'État souverain, a déclaré mardi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Mali a saisi le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour avoir cessé ce qu'il présente comme des actes d'agression de la France. Bamako dénonce notamment des violations de la souveraineté ainsi qu'un présumé soutien français à des groupes terroristes. Le ministère malien des Affaires étrangères a diffusé ce 17 août auprès de journalistes une lettre adressée par le chef de la diplomatie à la présidence en exercice chinoise du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre malien y accuse la France non seulement de violation de sa souveraineté et d'actes d'espionnage, mais aussi d'un présumé soutien de Paris à des groupes terroristes radicaux. Le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à la Charte des Nations Unies dans le cas où persisteraient les agissements français supposés ici dénoncés, affirme le ministre dans une lettre datée du 15 août qui marque le départ du Mali des derniers soldats français après 9 ans de présence militaire sur place. Et enfin, un tribunal saoudien a condamné une femme à 34 ans de prison pour ses activités sur Twitter, marquant la plus longue peine de prison jamais infligée à une activiste des droits des femmes. Doctorante en médecine dentaire à l'université de Leeds en Angleterre, Salma Al-Shehab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu'elle était en vacances en Arabie Saoudite. En juin 2022, un tribunal l'avait condamnée en première instance à 6 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, une peine considérablement alourdie il y a quelques jours. Le jugement en appel peut être contesté dans les 30 jours devant la Cour suprême. Le royaume est régulièrement épinglé par les organisations non gouvernementales pour de graves violations des droits humains, notamment sa répression contre les dissidents politiques et les militantes féministes. Selon Moscou, le résultat final des pourparlers de Vienne concernant la relance de l'accord nucléaire de 2015 entre les grandes puissances et la République islamique d'Iran dépend de la réaction américaine aux propositions de la République islamique d'Iran. Le négociateur principal russe, Mikhail Ulyanov, exprime son opinion quant aux progrès récemment réalisés lors des pourparlers de Vienne sur une éventuelle restauration de l'accord de 2015 sur le nucléaire civil iranien, affirmant que le résultat final dépendra de la réaction des États-Unis aux dernières propositions de la République islamique d'Iran visant à faciliter la conclusion du processus diplomatique. Mikhail Ulyanov, qui est également ambassadeur de Russie auprès des organisations internationales dans la capitale autrichienne Vienne, a fait cette remarque dans un post sur son compte Twitter mercredi, en réaction à un rapport du journal New York Times basé aux États-Unis, un jour plus tôt selon lequel des responsables européens était de plus en plus optimiste quant aux perspectives d'une relance de l'accord de 2015. Il y a eu des raisons d'être optimiste auparavant, mais à d'autres occasions, les attentes n'ont pas été satisfaites, a-t-il déclaré. Cette fois, plus que jamais, nous avons une grande chance de franchir la ligne d'arrivée des pourparlers de Vienne. Le diplomate russe a ajouté « Le résultat final dépend de la façon dont les États-Unis réagissent aux dernières suggestions raisonnables de la République islamique d'Iran. » Mikhail Ulyanov a en outre déclaré que la raison pour laquelle un tel accord semblait plus probable que jamais était que les dernières et les plus récentes propositions de la République islamique d'Iran ne sont pas controversés. Je n'ai aucune raison de croire qu'ils peuvent être inacceptables pour les États-Unis, a-t-il ajouté. Mais attendons et croisons les doigts, a-t-il estimé. Sur sa page Twitter, Ulyanov a écrit « Il y a eu des raisons d'être optimiste auparavant, mais à d'autres occasions, les attentes n'ont pas été satisfaites. Cette fois-ci, plus que jamais, nous avons une grande chance de franchir la ligne d'arrivée des négociations de Vienne. Plus tard, lundi, la République islamique d'Iran a annoncé qu'il avait fourni au coordinateur de l'Union européenne, dans les pourparlers du plan global d'action conjoint, sa conclusion finale concernant les propositions du bloc pour la relance de l'accord, soulignant que c'était maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils voulaient vraiment un accord final à trouver. L'Union européenne a confirmé qu'elle avait reçu la réponse de la République islamique d'Iran, affirmant que le bloc étudiait la réponse avec les parties à l'accord et avec les États-Unis. Selon le rapport du New York Times de mardi, les responsables ont qualifié la réponse de la République islamique d'Iran d'encourageante, affirmant qu'elle ne soulève pas de nouvelles objections majeures. Séparément mercredi, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a confirmé que les États-Unis avaient reçu les commentaires de la République islamique d'Iran via l'Union européenne. Ned Price a déclaré que l'administration du président Joe Biden étudiait toujours les notes et restait engagée dans les consultations avec l'Union européenne ainsi qu'avec ses alliés européens sur la voie à suivre. Les États-Unis, sous la direction de l'ancien président Donald Trump, ont quitté l'accord de 2015, officiellement appelé le plan global d'action conjoint en 2018, et ont rétabli les sanctions que l'accord avait levées. La République islamique d'Iran et les autres parties de l'accord ont repris des pourparlers intermittents pour une éventuelle revitalisation de l'accord dans la capitale autrichienne Vienne depuis l'année dernière. Des mois après que Joe Biden a succédé à Donald Trump pour examiner le potentiel de la relance de l'accord et de la suppression des sanctions injustes imposées par les États-Unis à la République islamique d'Iran.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat de Presse TV français diffusé en ce mercredi 17 août 2022 depuis la capitale iranienne, Téhéran. Nous allons évoquer la Syrie aujourd'hui. En effet, quelques heures après les frappes contre Damas et Tartous, l'une des plus grandes bases américaines au Moyen-Orient, à savoir la base américaine à Al-Tanf, a été prise pour cible par drone. Les agents américains de cette base en Syrie ont été portés disparus et il semblerait que les Américains sont au plus mal, aussi bien sur le plan militaire que dans le domaine de leur morale. Alors que se passe-t-il pour les Américains, non seulement en Syrie, mais dans tout le Moyen-Orient? Est-ce que les Américains sont plus affaiblis que jamais sur le plan militaire, intérieur, international, en ce qui concerne également le dossier ukrainien, la crise russo-ukrainienne? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos deux invités, deux analystes qui sont avec nous depuis Damas, la capitale syrienne. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues. À ce sujet, on revient tout de suite après.
Rien que quelques heures après leurs frappes aériennes israéliennes sur Damas et Tartous, la base américaine Al-Tanf a été prise pour cible par drone et leur agent en Syrie est porté disparu. Les Américains sont dans un état difficile tant sur le plan militaire que moral. Le Centcom US affirme avoir été visé par drone en Syrie. Une attaque a été menée par 3 drones lundi 15 août contre une base des troupes américaines Al-Tanf dans l'est de la Syrie, annoncé le Centcom, prétendant qu'aucune victime ni dégâts n'y est à déplorer et que les drones ont été repoussés. D'autres sources d'informations indiquent pourtant que les drones kamikazes équipés de missiles ont mené à bien leur mission, touchant leur cible malgré tous les efforts de l'armée américaine pour les intercepter. L'opération s'est effectuée peu après les frappes aériennes israéliennes contre Damas et Tartous, et alors que des millions de personnes en Syrie et en dehors de la Syrie attendaient une attaque sur les cibles militaires israéliennes, dit Abdel Bari Atwan. La décision était pourtant autre. Les États-Unis ont payé les coûts de l'agression israélienne, et cela peut-être parce que ils avaient laissé les sionistes utiliser leur base pour leurs attaques contre la Syrie et l'Irak. Un avertissement clair aux Américains les prévenant qu'ils ne seraient pas à l'abri au cas de toute guerre éventuelle et peut-être imminente dans la région. Quoi qu'il en soit, les responsables militaires sionistes ont bien saisi les messages du Hezbollah transmis en premier lieu par l'envoi de 3 drones au-dessus du champ gazier de Karech qu'Israël convoite et pille, et en second lieu par la diffusion de la vidéo montrant les coordonnées de toutes les plateformes du gaz d'Israël le long de la côte de la Palestine occupée d'Israël et les navires qui les protégeaient, rappelant en toute puissance à Tel Aviv que toutes ces cibles sont à la portée des missiles intelligents de haute précision de la résistance. Et tout cela sans parler de la grande panique qui a envahi les institutions militaires israéliennes quant à l'ouverture du front du Golan par l'armée syrienne et le Hezbollah parallèlement au front nord-sud du Liban, les côtes de la Palestine occupée et de la bande de Gaza. Il est même supposé que ces frappes sur Damas et la banlieue de son aéroport étaient une réaction active et détraquée sur fond des renseignements qui révélaient l'envoi d'armements et missiles sophistiqués au Golan pour se préparer à un futur combat sur ce front.
En effet, après ces frappes, il semblerait que la panique a envahi toutes les institutions américaines, mais aussi israéliennes dans la région, notamment en Syrie. Alors, pour évoquer la situation et analyser les détails de cette situation, nous avons invité 2 analystes de questions internationales, tous deux de Damas, la capitale syrienne. Arnaud Develay, juriste international, et Aïssa Armidani, madame docteur Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Armidani, je vous dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de votre présence, comme d'habitude, le temps que vous nous attribuez à Presse TV. Madame Armidani, vous qui suivez de très près les évolutions en Syrie, comment interprétez-vous cette attaque contre la base américaine Al-Tanf, une base qui revêt d'une importance particulière pour les Américains?
Bien sûr. Alors, merci pour votre invitation et puis bonjour à vous, à toute l'équipe Presse TV, à M. Develay et puis à tous les téléspectateurs. Alors, effectivement, la base Al-Tanf est une base américaine qui est là depuis 3 ans, oui. Plus que ça, depuis 2015 en fait. Elle tient sur un triangle qui est entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Elle est à 50 km, à quelques kilomètres d'une route rapide, d'une autoroute rapide qui joint la Syrie à l'Irak. Et elle est à quelques mètres, je dirais, d'un réfugié qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, ce n'est pas grave, un centre de réfugiés, mais qui constitue, oui, un vivier de terroristes pour cette base Al-Tanf. Cette base Al-Tanf est devenue rapidement une base d'entraînement, de direction des terroristes qu'ils envoient, des terroristes de Daesh et autres d'ailleurs. C'est Mukhayam al-Rukban, c'est le camp al-Rukban. qui constitue un vivier donc pour les Américains. Et puis ces derniers temps, donc systématiquement, ils relâchaient des terroristes qu'ils ont entraînés pour aller faire des attentats en Syrie, à droite, à gauche, etc. Or, la Syrie a réagi effectivement avec, de manière très... la Syrie, je dirais plutôt l'ensemble des forces de la résistance et du front de la résistance, à chaque fois répète et rappelle que, de toute façon, la riposte, elle sera collective. Vous ne saurez pas d'où elle vient. Elle pourra venir de n'importe où du front de la résistance. De ce fait, en fait, après avoir mis en échec et avoir arrêté quelques terroristes qui ont été entraînés par les États-Unis donc dans cette base Al-Tanf, il y a eu, je rappelle, il y a 10 jours, une de grandes attaques contre la base américaine Al-Shadadi, qui est en Irak, dans le nord de la Syrie et de l'Irak, à l'est de la Syrie. Et il y a eu aussi, malgré tout, ils ne se sont pas arrêtés, mais il y a eu donc aujourd'hui cette attaque. Effectivement, les attaques israéliennes ont continué contre les agressions israéliennes ont continué contre la Syrie. Les agressions turques aussi, disons-le, ils continuent à agresser les Syriens. Pas plus tard qu'hier matin, hier après-midi, pardon, il y a eu des attaques contre des villages ou des bases de l'armée syrienne dans les villages à l'ouest d'Alep. Il y a eu des attaques sur le nord de la Syrie aussi. Mais aussi, de ce fait, il y a des ripostes. Il y a des ripostes de l'armée syrienne contre les bases turques qui ont lancé effectivement ces offensives, et aussi cette attaque contre la base Al-Tanf américaine, oui, qui jusqu'à présent se pensait hors d'état d'être touchée, trop protégée et impossible de la toucher. Je voudrais aussi rappeler qu'à plusieurs reprises, là, les Américains continuent à piller de manière abjecte le pétrole syrien. Il y a tous les jours des dizaines de citernes, des centaines, des dizaines de citernes qui partent avec le pétrole syrien, et aussi des poids lourds qui partent avec le blé syrien aussi, de Hasakeh et puis vers le nord. Donc, ils vont dans leur base de Shadadi, qui est en Irak. Donc, en fait, cette riposte, pour moi, il y a eu plusieurs rappels à l'ordre de la part de l'État syrien et de la part de la population syrienne, parce qu'il y a eu aussi plusieurs rassemblements des tribus du Nord qui refusent l'occupant est américain et l'occupant turc, et aussi leurs alliés Qassad, FDS, les protégés des Américains. Il y a eu des attaques de la population contre des brigades américaines qui voulaient rentrer en Syrie et qui ont été obligées de retourner, qui ont été repoussées par la population, mais à coups de tir de pierre, hein, de jets de pierre. Et puis là, effectivement, cette attaque contre la base Al-Tanf se situe dans la série de ripostes de la population et de l'axe de la résistance contre ces agressions répétées américaines et contre ce vol manifeste, oui, et abject de l'ensemble des richesses syriennes et irakiennes aussi, du peuple syrien. Oui. Donc voilà, c'est...
Merci.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut qu'applaudir des deux mains,
oui,
la réaction de l'État syrien et du front de la résistance, parce qu'il est important quand même que justice soit faite, hein, et que les voleurs soient punis.
Bien sûr. Merci pour vos précisions.
Et repoussé.
Aïssa Armidani, je m'adresse maintenant à Arnaud Develay, maître international, juriste international. Alors maître, il semblerait qu'après cette attaque contre la base Al-Tanf, il y a une panique qui a envahi surtout les institutions israéliennes quant à l'ouverture du front du Golan par l'armée syrienne et aussi du front du sud du Liban par le Hezbollah. Il y a aussi les évolutions en Palestine occupée et Gaza, les ripostes. À votre avis, dans quelle situation se trouve-t-il l'axe US-Israël dans la région après toutes ces évolutions de ces dernières semaines?
Écoutez, alors merci à vous déjà. Bonjour aux téléspectateurs.
Merci
et bonjour à Dr. Midani. On a du mal à déceler exactement la stratégie américano-sioniste, si ce n'est que les Américains, ainsi que l'a souligné Dr. Midani, semblent accélérer depuis quelques semaines déjà leur pillage des ressources syriennes. Ils ne feront pas mine, ne serait-ce que pour la forme, d'essayer de mettre un masque semi-officiel sur leurs activités. Ça ressemble de plus en plus à de la piraterie ouverte et sans complexe. Les Israéliens, on peut penser que leur... rappelons que pour l'année 2022, il y a eu pas moins de 19 raids de l'aviation israélienne, avec toujours bien sûr des violations de l'espace aérien libanais ou en provenance de l'est de la Méditerranée au-dessus de la mer. Mais on peut penser qu'il y a une forme de cohérence dans le sens où ils essayent de se frayer un chemin pour leur aviation, où le moment venu, ils anticipent peut-être d'aller frapper les installations de la République islamique d'Iran. Et donc, considérant que la Syrie fait partie de la profondeur stratégique de la République islamique d'Iran, l'armée sioniste, l'aviation sioniste considère que pour une opération de cette envergure, il doit d'abord y avoir une modification de ces unités anti-aériennes. Mais pour les Américains, on a plutôt l'impression qu'ils sont utilisés sans qu'il y ait une quelconque stratégie établie, si ce n'est de, comme l'avait dit Trump lui-même à l'époque, s'occuper du pétrole, piller le pétrole essentiellement. Et c'est ce qu'ils font non seulement en Syrie, c'est ce qu'ils font aussi en Irak, en travaillant plus ou moins avec le clan Barzani.
Oui.
Et c'est ce qu'ils font maintenant au Yémen, en débarquant des troupes dans la province d'Atramout et en évacuant autant que peut se faire des tankers. Voilà, donc c'est ça ressemble plus à une espèce de débandade, et sous couvert de débandade, ils essayent voler l'argenterie de la cuisine, si je puis dire, alors que bon, ils sont en train de fuir les occupants de la maison. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
Oui, merci pour vos précisions. Madame Midani, avec tout ce qui se passe en ce moment dans la région, et aussi bien sur le front de l'Ukraine avec les ingérences américaines, au Moyen-Orient, en Syrie, les déstabilisations au Liban et tout ceci, il semblerait qu'il y ait des tentatives américaines, mais des tentatives qui sont vouées à l'échec en quelque sorte. Qu'en pensez-vous?
Des tentatives de dialogue, c'est ça?
Oui, exactement. Oui.
D'accord. Effectivement, il y a des tentatives, ils font circuler des bruits, ils font... Il n'arrête pas de dire qu'ils sont aussi tout à fait partants pour le retour à l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il n'arrête pas de dire qu'il y a des rencontres sous la table avec l'État syrien, ils font des appels du pied, etc., ce qui est faux de toute façon. Et puis l'État syrien, suite à ça, a déclaré clairement que de toute façon, s'il y a un dialogue, il faut que ce soit un dialogue. Le préalable, c'est le respect de la souveraineté de la Syrie et un dialogue d'égal à égal. Et
oui,
que surtout que les Américains montrent leur bonne foi et se retirent des lieux qu'ils occupent, parce que le préalable à toute discussion, c'est le respect de la souveraineté de la Syrie et de l'intégrité de son territoire. Donc, il faut effectivement courir ces bruits. D'ailleurs, de la même manière, on voit aussi qu'il y a des appels au dialogue du côté turc. Hein. Le ministre des Affaires étrangères turc qui dit que de toute façon, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, s'il n'y a pas de rencontre entre la Syrie et la Turquie, il faut qu'il y ait une rencontre au niveau populaire, au niveau des présidents. Il faut quand même, inévitablement, il faut qu'on termine par un accord, etc. Et de là, ils disent il faut que la Syrie puisse refaire la paix avec son opposition, l'unité nationale avec l'opposition. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses qui se passent comme ça, mais ce sont des ballons d'essai, je pense, et que. Nous, en tant que peuple syrien, on n'est pas du tout opposé à l'amitié avec le peuple turc, hein, mais bien la sûr. Condition préalable, partout, comme partout, c'est le respect de la souveraineté de la Syrie, le respect de l'unité de son territoire, qu'ils arrêtent de soutenir les terroristes qu'ils soutiennent depuis des années avec non seulement des armes, mais aussi les informations logistiques avec, ils se battent, l'armée turque se bat aux côtés des terroristes de Daesh, al-Nusra et tout, en fait, les Américains aussi d'ailleurs. Donc la même condition préalable est valable pour tout le monde, de toute façon, le dialogue oui, mais le préalable c'est le respect de la souveraineté, le retrait de nos territoires, et puis un dialogue d'égal à égal, et puis arrêter de soutenir les terroristes, et donc une lutte commune contre les terroristes qui ont été d'ailleurs importés par les Américains et par tous les pays de l'OTAN à travers les frontières turques. Ils sont au moins de 75-80 pays différents du dire des rapports d'organismes internationaux. Donc, pour nous, c'est tout à fait important, le respect. Et puis, effectivement, on n'est pas fermé au dialogue, mais d'abord, retrait total de tous les occupants de la Syrie, les occupants sionistes, turcs et américains.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, comme dernière question, Maître Develet, comment voyez-vous la perspective des évolutions avec toutes les explications que vous venez de nous dire ? Également, Madame Idani, en ce qui concerne la présence des forces américaines dans la région ?
Écoutez, visiblement, déjà, l'administration américaine est réduite à sa portion congrue. On sait que les décisions sont prises au département d'État. Donc, c'est Anthony Blinken qui dirige... plus ou moins les opérations. Moi, je pense qu'avec l'OTAN, ça va devenir de plus en plus intenable pour les Américains. Il faut savoir qu'il y a eu des manœuvres, des exercices militaires avec l'armée syrienne et les forces aérospatiales russes il y a quelque temps. Exercices militaires qui se focalisaient sur le parachutage de troupes spéciales. Donc, on peut penser que quelque chose se prépare. De toute façon, je pense qu'on s'achemine tôt ou tard vers une confrontation qui va remettre, si je puis dire, l'église au centre du village. On ne peut pas continuer comme ça. Le jeu a assez duré et la Syrie a besoin de ses ressources. Donc, de toutes les manières, les Russes ont fait leur part en s'exprimant aux Nations Unies lors de différentes conférences internationales sur le fait que les États-Unis doivent quitter le pays. Toutes les armées étrangères qui n'ont pas été invitées par le gouvernement légitime de la Syrie doivent quitter le pays. C'est un préalable. Autant qu'on peut penser qu'il y a au moins quelques points de convergence sur d'autres dossiers, certes, mais qui peuvent avoir une incidence positive sur le dossier syrien entre la Russie et la Turquie. En ce qui concerne les Américains, visiblement, la volonté d'agir de manière responsable n'est pas là. Et oui. À un moment donné, les décisions vont s'imposer et elles seront prises le moment opportun. Moi, c'est ce que je vois, et que ça concerne leur présence illégale dans le Nord-Est, que ça concerne la base de Al-Tanf, le fait demeure que je prépare. C'est tout ce que je peux dire.
Merci, merci beaucoup à Arnaud Develet, juriste international, à Issa Armideni, analyste franco-syrienne des questions internationales, d'être avec nous pour ce débat. Merci à vous, mesdames et messieurs, comme d'habitude, de nous avoir suivis pour cette édition d'un débat du jour. Nous avons évoqué la question syrienne, mais sur notre site qui est à l'adresse suivante, french.presstv.ir, nous évoquons tous les sujets d'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée à vous toutes et à tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Voix de l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 15e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali, béni soit-il. À celui qui est abandonné par ses proches, il y aura ceux qui sont loin, mais le soutiendront et l'aideront. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, premier imam des chiites, souligne l'importance de la solidarité familiale, mais aussi de la solidarité sociale parmi les membres de la communauté musulmane. Pourquoi la famille est-elle une notion importante en islam? La famille est la fondation même de la société islamique. La paix et la sécurité offertes par une stabilité familiale n'ont pas d'équivalent. Ces éléments contribuent de façon essentielle à améliorer la finesse spirituelle des membres de la famille. Un ordre social harmonieux dérive de l'existence de ces liens familiaux. Les enfants y sont chéris et quittent rarement la demeure familiale avant leur mariage. Le respect de la prière, du père et des personnes âgées est un élément prépondérant de l'éducation musulmane. Voilà pourquoi dans le monde islamique, il n'existe virtuellement aucun hospice pour les vieilles personnes. Le Coran enseigne de chérir et soigner nos aînés comme eux l'ont fait pour nous, enfants. En islam, le fait de maintenir les liens familiaux et de remplir ses obligations envers la famille est un ordre divin que l'on doit absolument respecter. En effet, un musulman ne peut pas vivre son islam d'une manière individuelle sans se préoccuper du devenir des autres. Les premiers qui doivent retenir son attention sont bien sûr les membres de sa famille. Dans le verset 6 de la sourate 66 du Noble Coran, Dieu dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Dans la famille musulmane, chacun a des devoirs et des droits. Chacun a droit au respect entier et à l'affection des siens. Grands-pères, parents et enfants doivent être tous unis autour du même principe, l'adoration de Dieu et l'application de sa loi révélée. Puisque la loi de Dieu est l'unique axe régissant les principes qui font la trame du tissu social, des conflits tels que les conflits de génération n'ont pas leur place en islam. Le rejet des vieux et le délaissement des jeunes ne font pas partie de la morale islamique. L'amour et l'affection donnés aux uns et aux autres prennent la forme d'obligations culturelles et divines. Dans le verset 23 de la sourate 17 du Coran, Dieu dit « Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui seul. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. » La famille est l'institution fondamentale sur laquelle s'appuie toute activité qui tend à faire évoluer la société ainsi que l'avenir des générations. La famille en islam est construite suivant les mesures suivantes. Le but du mariage dans l'islam est la chasteté et l'engendrement de la bonne progéniture. Le choix du partenaire dans le couple avant le mariage est basé sur la piété et la bonne morale. L'homme musulman est généreux envers sa femme et cherche toujours à se comporter convenablement avec elle, afin que leurs âmes et leurs sentiments soient harmonisés. Cela leur permet une meilleure éducation des enfants. Quelle est la conception de la famille en islam? Sur cette question, le Coran et la Sunna nous ont apporté un grand nombre de réponses. En effet, la famille fait partie de la norme choisie par Dieu et elle est d'une valeur universelle que l'on retrouve dans toutes les sociétés. Dieu le Très-Haut a codifié de manière précise le modèle de la famille à suivre, pour nous signifier qu'il n'y a que ce modèle de famille qui puisse apporter le bonheur et l'équilibre. Suivre ce modèle, c'est trouver l'équilibre et le bonheur, et s'en détourner, c'est se confronter à des troubles dans sa famille. Dieu a pris en compte les origines communes de l'homme et de la femme pour constituer ce modèle de famille. Il est notre Créateur et celui qui nous connaît le mieux. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.